Je vous propose d'écouter une interview de l'écrivain manosquin que vous connaissez bien toutes les deux. Il s'agit de René Frény. Minuit dans la ville des songes, c'est paru chez Gallimard. Eh bien, c'est la vie de René Frény, voix off et caméra à l'épaule, mais aussi toujours avec un livre en main. On suit l'écrivain depuis son enfance et adolescence marseillaise, entre Santon et Crèche avec sa tendre mère, mais aussi primo-délinquance et quartier mal famé, première virée à Londres en pleine révolution rock avant l'Espagne et le tournant de sa vie, convocation à l'armée à Verdun où le rebelle est mis au trou. Grâce à un ami d'enfance changé car il avait les mots, souligne-t-il, et un aumônier qui lui fait découvrir la littérature, Giono, Camus, Vian et Hemingway, il est marqué à vie. Puis après une parenthèse galante à Fort-Calquier, il est déclaré déserteur, il fuit la Corse, la Grèce et la Turquie pendant plusieurs années, retour en France pour retrouver sa mère que son absence tourmente, c'est Manosque où deux guitares l'ensorcellent, avant Marseille, où il est aide-soignant puis infirmier dans un hôpital psychiatrique. Fatigué de son enfance et de son errance, il met fin à sa fuite et se rend. Après 40 jours de prison au fort de Vincennes, il est libéré contre un an de prison avec sursis. Il va revivre. Minuit dans la ville des songes, c'est un beau livre, sommairement autobiographique et vraiment poétique. Dans une ville des songes que les lecteurs habitués à la plume de Frény reconnaîtront sans peine, je vous propose d'écouter l'auteur manosquin qui m'a accordé une interview avant de partir en région parisienne, recevoir le prix Malesherbes. René Frény, Minuit dans la ville des songes, paru chez Gallimard, c'est l'histoire de votre vie.
C'est l'histoire des plus grandes émotions de ma vie, donc c'est ma naissance à Marseille et toutes les grandes émotions que j'ai ressenties qui ont traversé mon corps jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai un certain âge et des grandes émotions, Dieu sait que j'en ai connu. Quand je dis grandes émotions, c'est toutes les grandes peurs, tous les grands désirs, tous les grands espoirs que j'ai eus dans ma vie. D'abord la naissance de mes deux filles, c'est incroyable de se retrouver derrière la vitre dans la nurserie et de voir un bébé de 50 cm qui vient de naître 20 minutes plus tôt, j'ai pas vu un seul papa qui ne pleure pas à ce moment-là, surtout quand on entre dans la nurserie et qu'on vous permet de passer les mains comme ça par les ouvertures de ce berceau en plexiglas et de mettre, j'ai mis mes deux mains sur le ventre de mon bébé, de ma fille Marie-Lou qui hurlait parce qu'elle était née par césarienne, elle était pourpre, aubergine, elle hurle, j'ai mis mes mains sur son ventre et elle s'est calmée, enfin j'ai éclaté en sanglots, c'est des souvenirs extraordinaires, la mort de ma maman qui est bien sûr le moment le plus noir de ma vie ici à Manosque, mais à deux étages près, ma fille est née au dernier étage dans la maternité et deux étages plus bas, un an plus tard ma mère est morte. Donc quand on me demande quel est le bâtiment le plus important de ma vie, c'est ni le Colisée, ni la Tour Eiffel, ni la Tour de Pise, c'est l'hôpital de Manosque, l'hôpital public où ma fille est née et où ma mère est morte. Donc voilà ce que j'appelle les grandes émotions d'une vie. J'ai raconté quelques passions et puis surtout ma passion pour l'écriture, le jour où j'ai découvert l'écriture dans une cellule de prison, la lecture et l'écriture, et où, oui, c'est comme si le directeur m'avait donné les clés de la prison. Je suis parti en voyage, et les 6 mois de prison sont passés assez vite, parce que je passais 8 heures par jour à lire et à écrire. Sans ce séjour en prison, je ne serais jamais devenu écrivain. Donc c'est ce que je raconte dans ce livre, à la fois mon premier livre ouvert, tu ouvres un livre comme on monte sur un bateau ou dans un train, et je suis parti en voyage. Il y a 50 ans que je voyage, à la fois dans les collines de Manosque et en ouvrant un livre. Et quand je pars avec un livre de Giono dans la poche, je fais ce double voyage, il m'arrive de m'adosser à un cerisier, à un amandier, sur les collines, je lis le Hussard sur le toit, et j'ai le paysage sous mes yeux que Giono décrit, et en même temps, je me demande lequel est le plus beau. Si c'est la cuvette de Manosque, où sont en bas les colériques, et puis les gens qui sont réfugiés dans les collines, si c'est le livre ou si c'est le paysage réel. Parce que c'est très très dur de faire plus beau que les paysages autour de Manosque. Et parfois, Giono y arrive et dépasse le paysage réel. Donc il y a ce double paysage devant mes yeux qui se superpose, le paysage de la littérature et le paysage réel.
René Frény, vous savez que je vous connais bien, je connais bien aussi votre œuvre. On apprend dans Minuit et la ville des songes pas mal de choses sur vous. Et on apprend par exemple que non, le premier livre, c'était pas Colline, c'était la biographie de Lucky Luciano.
Mais quand on est minot à Marseille, et comme moi on ne va pas à l'école, puisque les enfants se moquaient de mes yeux, m'appelaient quatre œils, j'étais toujours dans la rue. Je détestais l'école. L'école, c'était une salle de torture. Je ne supportais pas l'école, donc je traînais avec tous les garnements de Marseille. Et nous étions fascinés, quand on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, par les footballeurs et les grands truands marseillais. Alors à l'époque, c'était la famille Guérini, c'était Gégène Le Manchot, c'était Venturi. C'est, pour nous, c'était des idoles, parce qu'ils étaient capables d'entrer dans les banques, de prendre l'argent. Et donc, Lucky Luciano, qui était le plus grand truand américain, sicilien, établi à New York, pour nous, c'était les grandes références. On ne savait même pas qui était le maire de Marseille, on ne savait pas qui était le Premier ministre, on ne savait même pas qui était le président de la République, mais on connaissait tous les joueurs de foot de l'OM, et on connaissait par leur prénom tous les gros voyous marseillais. Parce que quand on est dans la rue, quand on ne va pas à l'école, on est persuadé qu'on ne deviendra pas enseignant, qu'on ne deviendra pas avocat, qu'on ne deviendra pas notaire. On se dit, le seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'être footballeur, boxeur ou voyou. C'était la seule alternative. Donc quand j'ai lu la vie romanesque de Lucky Luciano, je me suis dit, je veux devenir Lucky Luciano.
Et c'est pour ça que vous vous retrouvez à Manosque une fois que vous êtes adulte, à un endroit qui s'appelle Les Deux Guitares et que certains manosquins ont évidemment connu, qui est un endroit qui est tenu, entre guillemets, par la pègre marseillaise où personne ne viendra vous embêter puisque vous êtes en fuite, vous êtes déserteur. Et donc là, vous avez une partie de votre vie qui s'écrit, et c'est le cas de le dire, puisque vous devenez le professeur des Deux Guitares.
Et oui, parce que j'ai déserté l'armée, je me suis évadé de cette prison, fin 67. Je me suis planqué pendant un peu plus d'un an à Bastia. J'étais disjoqué dans une boîte de nuit jusqu'à ce que la gendarmerie retrouve ma trace. Donc je suis parti un peu à Istanbul et ma mère me manquait tellement, la langue française, la langue maternelle et surtout ma mère, la serrer dans mes bras, lui dire maman, lui dire je t'aime. Je suis revenu, mais j'étais toujours recherché et condamné par défaut à 3 ans de prison. Donc je me suis réfugié à Manosque, que je connaissais un peu. J'habitais dans un grenier, dans la rue Grande, passage du contrôle, au dernier étage. Et le matin, j'allais prendre mon café au lait. Je ne prenais pas de café parce que j'avais peu d'argent. Et je trouvais le café au lait beaucoup plus nourrissant parce qu'il y avait du lait. Et je buvais mon café au lait aux Deux Guitares, qui étaient, comme vous dites, le repère de tous les gros truands marseillais les plus gros, puisque Gaëtan Sampa et son demi-frère Jeannot aussi venaient là boire des coups tous les jours. C'était un bar en contreplaqué. C'est le bar le plus laid que j'ai vu de ma vie, et en même temps c'était le plus romanesque parce qu'il y avait les plus gros truands marseillais, et c'était tenu par un vieux couple de Corse. Le mec était sorti il n'y a pas très longtemps de prison, et donc tous les gros truands passaient là, surtout quand ils étaient interdits de séjour à Marseille. Et comme à l'époque Manosque comme Pertuis étaient des villes ouvertes, des villes où les truands avaient le droit d'aller, ils s'étaient réfugiés ici. Ils habitaient tous les deux, Zampa et son demi-frère, avenue de la gare. Et c'est là que j'ai connu les jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans, qui allaient devenir les plus gros voyous de Manosque et qui ont été finalement recrutés par Gaëtan Zampa et son frère. Et je suis devenu, comme vous dites, le professeur, parce que toutes les filles de l'époque qui n'allaient pas au lycée, qui n'avaient pas envie d'étudier, me disaient « On te voit toujours lire, tu as toujours un livre dans la main, aide-nous à faire une dissertation. » Et non seulement je les aidais, mais je faisais moi-même les dissertations, j'avais de très bonnes notes, et en échange, je demandais simplement le plat du jour. Elles me payaient le plat du jour. Comme je n'avais pas de salaire, pas de revenus, j'étais recherché, tous les jours, je faisais une dissertation et je gagnais mon plat du jour aux Deux Guitares. Parfois au Grand Paris, parfois au Glacier, selon les jours. Donc je changeais de table, mais tous les jours, pendant des mois et des mois, comme je lisais Freud, comme je lisais Lacan, comme je lisais Trotsky, comme je lisais Nietzsche, comme je lisais Giono, elle me voyait toujours un livre à la main, donc j'arrivais à réussir, moi qui n'avais pas le bac, qui avais échoué au BEPC, j'arrivais à réussir d'assez belles petites dissertations qui me valaient le plat du jour.
Avec une vue sur votre vie depuis toute l'errance, l'enfance marseillaise, puis après cette arrivée à Manosque, évidemment la désertion et bien sûr le contact avec l'armée tout d'abord à Verdun, la prison, le trou, hein, comme vous dites, et toute cette errance qui finit par arriver tout simplement au pied du Mont d'Or à Manosque, où vous commencez à écrire et à vous dire « tiens, je pourrais faire ce métier ».
Oui, j'avais envie d'écrire, mais je m'en sentais pas capable. Et comme les bibliothécaires de l'époque, la bibliothèque n'était pas où elle est actuellement, me disaient, mais vous prenez tous les livres de Giono, vous ne lisez que Giono. Je dis, non, je ne lis pas que Giono, mais c'est peut-être mon écrivain préféré. Et elles m'ont dit, mais allez le voir, dites-le lui, il habite. Et elles m'ont dit où il habitait, au bout de cette impasse, au bord du canal. Je suis donc monté voir le Paraïs. Mais je n'ai pas osé taper à la porte de Giono, parce que pour moi, c'était peut-être le plus grand, c'était un génie de cette musique des mots, de ce vocabulaire, de cette invention. Je trouvais que cet homme recréait le monde mieux que quiconque. J'ai regardé le jardin par une fente de la porte, j'ai vu une fontaine avec une espèce de joufflu qui crachait de l'eau sur des nénuphars, des palmiers. J'ai trouvé ce jardin très beau et je n'ai pas osé frapper à la porte. Je suis reparti vers Manosque, mais sans regret. Et un mois plus tard, Giono est mort. Il est mort en octobre 67, et donc j'ai dû monter là-haut à la mi-septembre.
Et vous dites ne pas regretter de ne pas l'avoir dérangé.
En octobre 70, pardon, je me suis planté. Il est mort en octobre 70, et je ne regrette pas de ne pas l'avoir dérangé, parce que maintenant, je côtoie tous les écrivains français, même étrangers, et je trouve que, pour la plupart d'entre eux, leur œuvre est supérieure à ce qu'ils sont. Et peut-être que j'aurais été un peu déçu par Giono, peut-être pas, mais je n'ai jamais été déçu par un de ses chapitres. Et peut-être que l'homme m'aurait paru moins haut que son œuvre.
Donc il faut rester dans ce que vous n'avez pas vécu, mais ce que vous avez lu, évidemment. Il y a dans toute votre œuvre, René Frény, cette magie des mots particulière que vous utilisez très souvent. Et moi, il y a un mot qui m'a plu et une expression magnifique sur un objet qui vous a suivi pendant toute cette errance, c'est votre duvet. Et vous dites, le duvet, c'est le doudou des vagabonds.
Mais c'est ce que j'avais de plus cher, de plus précieux. J'avais un sac marin et dedans, il y avait ce duvet. Mais un duvet, bien sûr, à l'époque, était vraiment rempli de duvet. Et au fil des chemins, il y avait des petits trous qui se formaient dans le duvet et je perdais des plumes, je perdais du duvet. Et à la fin, mon duvet n'était plus que l'ombre de lui-même. Il n'y avait plus que la housse du duvet, mais il avait perdu 90% de son duvet. Donc, je n'avais même plus chaud dans son duvet et c'était quand même mon doudou. Comme un doudou que l'on a sucé, mordu durant toute son enfance. Il n'y a presque plus rien, mais c'est la chose la plus précieuse qu'on ait quand on est enfant. Et sur la route, le duvet, c'est la chose la plus protectrice. C'est comme le ventre d'une maman. C'est comme la douceur d'une maman. On m'aurait volé mon duvet, je crois que j'aurais éclaté en sanglots.
Vous êtes en présentation de Minuit dans la ville des songes, pendant les correspondances à Manosque. Vous avez un petit peu une appréhension de présenter votre livre dans cette ville des songes ?
C'est le seul endroit où j'ai un peu le trac, parce que les gens me connaissent. Je bois le café avec tout le monde, je bavarde avec tout le monde. Il y a des anecdotes que j'ai déjà racontées, et parfois je les raconte pour la énième fois. Et puis, devant nos amis, devant notre famille, on est un peu plus gêné, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Là, j'arrive du Haut-Quercy, puis je vais partir à Chambéry. Ensuite, je monte à Paris dimanche. Je connais pas les gens à qui je m'adresse, même si je fais une bourde, c'est pas très grave. Le vent emporte tout. Mais devant nos proches, on est toujours moins rassuré. Moi, je me dis toujours, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que y a ta famille là et tu risques de les vexer ou tu risques de voilà. Donc c'est le seul endroit, même quand je passe à la télévision, je n'ai pas le trac, ni à la grande librairie, ni à France Inter. Pourtant, ma famille me regarde, mais la place de Manosque, pour moi, c'est-à-dire mon jardin, c'est terrible, parce que tu reconnais tous les regards, tu vois des yeux que tu connais. Il n'y a rien de pire que de reconnaître les regards qui te regardent et qui t'analysent et qui te jugent, alors que quand une caméra, la grande librairie est devant toi, enfin, c'est qu'une caméra.